With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle « 20 milieux sous ma chair ». L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste ? C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 milieux sous ma chair, dans le cœur sur la table.
Binge Audio. Salut, c'est Thomas Rozek. Plus de 5 ans après le début du mouvement MeToo, on est encore loin d'avoir exploré toutes les composantes sociales et autres institutions qui n'ont pas encore entamé ce nécessaire travail d'exploration des violences sexistes et sexuelles en leur sein. Petit à petit cependant, on gagne du terrain, grâce notamment à des enquêtes journalistiques fouillées et développées. L'affaire Weinstein a commencé comme ça, les scandales dans l'Église catholique également, et les multiples affaires qui concernent Patrick Poivre-d'Arvor aussi. Plus les milieux sont durs à pénétrer, c'est aussi vrai de l'Église que du monde des médias ou du cinéma, plus le boulot des confrères et consœurs est retentissant. Alors forcément, quand deux d'entre elles se mettent sur la piste des potentiels abus au sein de la communauté juive orthodoxe, qui par essence n'aime pas particulièrement la publicité, le produit de leur recherche ne peut que nous passionner. Ce travail qu'ont mené Lila Berdugo et Salomé Parent-Rajdi, il a donné un podcast, Tu ne te tairas point, produit par nos camarades de Paradiso et Slug News, et il nous a donné envie surtout d'en savoir plus, ce qu'on va faire tout de suite. Bienvenue dans Programme B. Et pour comprendre les ressorts de cette enquête en 6 épisodes, j'ai donc invité Lila Berdugo et Salomé Parent-Rajdi à venir nous raconter comment elles avaient pendant plus d'un an enquêté sur le milieu juif orthodoxe français et quel avait été le point de départ de ce travail au long cours. C'est Lila Berdugo qui répond la première.
Avec Salomé, on est parti du rapport Sauvé, qui est un rapport qui a exposé l'Église catholique et les abus sexuels au sein de l'Église catholique. Donc il est sorti en janvier 2022, il me semble, ce rapport. On s'est demandé toutes les deux si les autres monothéismes avaient envie de faire leur introspection, et notamment le judaïsme. Voilà, moi, je suis de confession juive et Salomé, elle a énormément travaillé à Jérusalem, en Israël. Donc du coup, c'est des milieux qu'on connaît toutes les deux, professionnellement et personnellement, assez bien. Et quelques mois, il me semble, après la publication du rapport Sauvé, il y a aussi eu... en Israël, un scandale qui a éclaté, qui a fait pas mal de bruit, notamment aussi dans la communauté juive à l'international, que ce soit du coup en France et aux États-Unis, qui était le scandale Chaim Walder, qui était une personnalité ultra connue chez les juifs orthodoxes, un auteur de livres jeunesse, qui était vraiment quelqu'un qui était reconnu et aimé par les communautés internationales. Et donc, le scandale Chaim Walder, c'est que le quotidien Haaretz a découvert qu'il avait abusé pendant toute sa carrière de femmes et d'enfants. Et donc, de ces deux faits-là, on s'est un peu dit avec Salomé qu'on allait commencer à enquêter pour voir si, en France, il y avait aussi des affaires, comment la communauté juive aussi s'organisait par rapport aux violences sexuelles et aux abus sexuels. Et donc voilà, on a commencé il y a un an et demi et on a découlé notre podcast.
Très concrètement sur nos affaires, on a commencé à travailler en partant de l'affaire du rabbin numéro 1. Et en fait, c'est une affaire sur laquelle on est tombé assez rapidement en commençant un peu à fouiner. Notamment, on était sur des groupes Facebook. Je pense notamment à un groupe qui s'appelle Judaïsme et Féminisme. Et en fait, c'est un peu comme ça, à la fois en fouinant et à la fois en demandant à des gens un peu qui étaient actifs dans le judaïsme et le féminisme, violences sexuelles, etc., s'ils avaient déjà entendu parler de choses. Et c'est comme ça qu'on nous a parlé de cette histoire et de cet homme. Et c'est là qu'on a commencé, entre guillemets, à dérouler la pelote en parlant d'abord à Déborah.
Tu as mentionné ce personnage, Rabbin numéro 1, donc il y en a trois, c'est Rabbin numéro 1, 2 et 3. Ils ne sont pas nommés dans le documentaire volontairement, notamment parce que les affaires sont potentiellement toujours en cours. C'est une difficulté quand on est journaliste de s'attaquer à une matière qui n'a pas terminé sa vie judiciaire.
Le rabbin numéro 3, on le nomme parce que lui, c'est le seul. Donc c'est le rabbin Yosef Ohayon, parce que lui, donc, qui était rabbin à Marseille. Et lui, on l'a nommé parce que ça a été jugé. Et c'est vrai que c'est une question. Déjà, on n'a pas toujours été d'accord sur le sujet avec Lila. Est-ce qu'il fallait ou pas le nommer Et je pense qu'au final, on est toutes les deux très contentes de la décision qu'on a prise. Les victimes nous avaient dit, nous, on veut bien parler s'il n'est pas nommé, notamment parce que, alors, pour l'instant, il n'y a pas eu de plainte, et je ne dis pas qu'elles vont forcément le faire, mais en tout cas, c'était, disons, on ne sait pas ce qui peut arriver après, donc on veut, nous aussi, pour protéger notre histoire quelque part, ne pas que notre nom soit affiché, et aussi parce que c'est déjà tellement dur d'être les premières à prendre la parole que, du coup, en plus de nommer cette personne, c'est pas forcément facile. Et après, on s'est dit, qu'est-ce que ça apporterait concrètement de plus? Alors, il y a évidemment des gens qui nous ont dit, on le reconnaît de toute façon, ça aurait été mieux de le nommer. Je sais pas s'il y avait... en tout cas, nous, on s'est dit que c'était mieux de pas le nommer parce que quelque part, voilà, c'était aussi une manière de rendre plus universelle, si je puis dire, ces affaires-là. Et qu'en fait, là, on parle d'un homme, de deux hommes en particulier, mais ça pourrait être d'autres personnes, quoi.
On a beaucoup débattu pour savoir si on voulait ou pas nommer ces rabbins. La conclusion de tout ça, c'est que nous, ce qu'on voulait dénoncer, ce dont on voulait parler dans ce podcast, c'était avant tout d'un système, de comment l'institution a protégé, a déplacé, a parfois silencié les victimes. L'idée, c'était de dévoiler un peu le système, l'institution, de voir comment les choses s'organisaient. Et c'est aussi pour ça qu'on n'a pas voulu... entre guillemets, mettre la lumière sur une personne en particulier, mais plutôt généraliser le propos pour aussi que l'institution ne puisse pas se cacher derrière. D'ailleurs, qu'elle puisse pas se dire, non, mais c'était une personne, c'était lui, ça a été géré. Non, ce dont on s'est rendu compte aussi, c'était que c'était une manière de faire et que si ces rabbins-là ont pu continuer d'agir comme ça pendant toutes ces années, c'était aussi parce qu'ils étaient, entre grands guillemets, soutenus derrière.
La grande difficulté quand on s'attaque à ces sujets-là, et notamment au sein d'institutions religieuses, c'est effectivement le mur de silence qui est érigé entre le monde extérieur et les affaires considérées comme étant internes de ces institutions. Comment on passe par-dessus le mur du silence, du coup ?
Je pense que de toute façon, la première fois qu'il y a un MeToo dans une communauté, qu'on parle de n'importe quelle communauté, je pense que c'est toujours compliqué pour les personnes qui prennent la parole parce qu'elles ont été victimes ou pour les personnes qui aident à faire sortir cette parole. Et je pense qu'en plus, quand du coup, il y a une couche religieuse par-dessus, c'est doublement compliqué. Et nous, c'est pour ça qu'on a tenu aussi dans notre podcast à avoir tout un épisode notamment qui explique, parce qu'en fait, il y a des ressorts qui sont de domination, etc., qui ne sont pas propres au judaïsme. Et ensuite, ce qu'on trouve intéressant, c'était de parler de tous les mécanismes qui sont propres au judaïsme et en fait qui sont des vrais concepts du coup du judaïsme et qui là sont dévoyés et qui sont utilisés justement pour maintenir cette chape de plomb, quoi.
C'est vrai que comme disait Salomé, c'est un peu la double peine pour les victimes, notamment dans la communauté juive, parce que du coup, il y a aussi un risque d'être ostracisé. C'est aussi pour ça qu'avec Salomé, on a eu la chance de pouvoir enquêter pendant une longue période, qui a aussi fait qu'on a créé une vraie relation avec toutes les femmes qui avaient été victimes de ces rabbins. Que, par exemple, Déborah qui parle dans l'épisode 1, la première fois qu'on l'a vue, on est allé chez elle, on a passé toute une après-midi avec elle, même pas forcément pour parler de ce qui lui était arrivé, mais pour qu'elle nous raconte sa vie. C'est, en tant que journaliste, c'est un devoir et c'est aussi hyper important de créer une relation de confiance avec les personnes qui veulent bien nous faire confiance pour libérer la parole. Donc voilà, ça a été une première chose déjà d'établir une relation de confiance et dans un second temps... il y a aussi vérifier les faits. Ça, c'est une étape qui est extrêmement difficile pour les victimes et aussi pour nous, parce qu'à aucun moment on veut remettre en cause leurs paroles, à aucun moment on veut les mettre en fragilité, mais c'est aussi dans notre travail de journaliste hyper important, donc de demander entre guillemets des preuves quand c'est possible. On a eu de la chance avec Déborah, elle avait énormément de matière, elle avait des messages, elle avait des photos, elle avait des captures d'écran, de discussions entre le rabbin numéro 1 et d'autres victimes qu'elle avait réussi à recueillir. Donc ça, ça a été énormément de matière dont on a pu se servir. Mais voilà, il y a aussi des moments qui sont durs, qui sont des moments très factuels où nous, on va demander des dates. Et c'est pas agréable, ça c'est évident, mais c'est aussi des moments qui sont hyper importants dans notre travail de journaliste.
Ça a été pour toutes des processus. Il y en a qui n'ont pas voulu clairement nous parler. Il y en a où vraiment il a fallu prendre le temps, aller les voir plusieurs fois. Et après, je pense que ce qui était aussi pas facile, c'est que comme on développe des relations assez longues et qu'on est à la fois très dans l'écoute et qu'en même temps, il faut vérifier tout ce qu'on nous dit. Et puis même après la sortie, en fait, ce qui était compliqué aussi à gérer, c'était le rapport avec ces personnes, parce que c'est vrai que c'est un rapport de journaliste, mais en fait, c'est plus qu'un rapport de journaliste à un moment, parce que c'est des personnes qui nous font confiance, qui nous... Vraiment, il y en a certaines, c'était quand on les laissait, on sentait qu'elles étaient littéralement vidées. Donc voilà, il faut prendre des nouvelles, comment ça va. Enfin, et puis, parce que c'est jamais facile, entre guillemets, de réceptionner une parole comme ça et qu'on a envie de le faire le mieux possible. Donc c'est vrai que c'était des questions, où est-ce qu'il y a la limite entre notre travail de journaliste, l'écoute qu'on a, est-ce qu'on faut revoir les personnes. Enfin, donc ça, c'est vrai que c'était intéressant et on a essayé en tout cas de le faire le mieux possible. Mais c'est vrai que c'était assez pesant, enfin, évidemment pour elle et pour nous aussi, d'être vraiment plongé dans ces histoires-là, H24, parce que de facto, on l'était. Quoi.
Une autre limite dans ce travail d'enquête, mais qui revient régulièrement quand on mène des investigations comme celles que vous avez menées, c'est de ne pas se substituer à la justice, mais de quand même faire le travail de contradiction. C'est-à-dire potentiellement d'alerter un auteur présumé de fait d'accusations à son encontre alors qu'il n'y a pas forcément d'action en justice et tout ça. Comment vous avez intégré, vous, cette donnée? Parce qu'elle fait partie, sans spoiler le podcast, elle fait partie de votre travail à toutes les deux.
Le moment du contradictoire, c'était un peu un moment qu'on redoutait toutes les deux parce que, entre guillemets, ça concrétisait vraiment l'enquête et on devait aller vraiment demander des comptes. Donc déjà, ça a été un peu... tactique en vrai. C'est-à-dire quand on s'est dit, OK, on en prévient une personne de l'institution, tout le monde va être au courant. Donc, déjà, il a fallu aller très vite aussi là-dedans. On l'a fait chronologiquement, mais c'était aussi un ordre de base. Est-ce que si on dit ça à lui, lui, il va pouvoir se protéger, etc. Donc, ça a été ça. Et ensuite, et ça a vraiment été pour Salomé comme pour moi une première, c'était qu'on a. Du coup, rencontrer l'un des rabbins qui est accusé dans notre podcast. Ça a été une surprise qu'il veuille bien nous rencontrer. Et c'est vraiment une rencontre qu'on a préparée pendant longtemps, quoi. Déjà, parce que l'idée, c'était de, évidemment, lui donner la parole sans faire du mal aux victimes, sans discréditer la parole de toutes celles qui avaient bien voulu nous faire confiance, mais aussi respecter, du coup, le contradictoire journalistique et lui donner la parole. C'est vrai que c'était une espèce d'équilibre bien réfléchi dans l'écriture et dans la rencontre pour être sûr qu'on ne soit pas trop complaisante à son égard. Mais en tout cas, c'était hyper intéressant en tant que journaliste de faire ce travail-là et c'était une première pour nous deux.
C'était la même chose à la fois avec un de ces rabbins et du coup avec les institutions. Alors le rapport n'est pas exactement le même, mais c'est vrai que le contradictoire, c'était important et c'est vrai que... Enfin, moi, qui avait fait de la presse écrite, c'était les contradictoires. Concrètement, si on envoie des questions, on nous fait des réponses écrites. Et là, c'est des réponses à l'oral. Donc, il faut les mettre en contexte, il faut suffisamment les faire parler. Mais en même temps, et à quel point est-ce qu'on les fait parler? Donc, on a vraiment essayé de leur donner la place qu'ils méritaient, entre guillemets, sans en faire trop et en mettant bien à distance ce qu'ils nous disaient.
Il faut se rendre compte, en plus aussi, et que là, ça, c'est vraiment les journalistes qui parlent, mais nous, ça faisait un an et demi qu'on entendait parler de cette personne. C'est-à-dire qu'on connaissait sa voix, son visage. On s'en était fait un monde, quoi. C'est-à-dire qu'on avait eu des femmes qui nous parlaient de lui, on savait ce qu'il avait fait. C'est un rapport qui est hyper bizarre, en fait. On est dans un truc d'intime extrême où on a vu des échanges qu'il a eu avec certaines victimes, avec des femmes. Et du coup, de se retrouver devant lui aussi, il faut réussir à faire la part des choses pour rester le plus neutre possible. Encore une fois, ne pas le braquer parce qu'on voulait obtenir des réponses à certaines de nos questions. Et en fait, c'est un peu la solution qu'on a trouvée avec Salomé. C'était que la parole qu'on lui donne et le temps de parole qu'on lui donne, c'est aussi un temps de parole qui va permettre aux auditeurs de fermer des questions qui sont restées ouvertes dans certains moments du podcast.
quand on travaille sur ces matières-là qui sont très douloureuses, vous l'avez dit toutes les deux, on se pose forcément toujours la question de notre responsabilité en tant que journaliste, notamment à partir du moment où ces affaires, du coup, sont maintenant sur la place publique et de leur réception, et de la réception par les principales intéressées, à savoir les femmes qui vous ont confié leur histoire. Comment vous avez géré ça et comment, justement, vous avez suivi leur réaction derrière ?
Je dirais presque que c'était la première des appréhensions, parce que c'était vraiment, est-ce que ça va leur plaire? Est-ce qu'elles vont comprendre même, par exemple, pourquoi est-ce qu'on parle à un des rabbins? Enfin voilà, c'était des choses qui étaient importantes. Et alors on sait qu'il y a une des victimes qui ne l'a pas encore écoutée, puisque de toute façon, elle nous avait dit depuis le début qu'elle ne voulait pas l'écouter. Mais par exemple, Déborah, elle nous a fait un retour en nous disant qu'elle était contente, qu'elle n'avait pas l'impression que sa parole ait été dévoyée, et que même elle nous disait que pour moi, c'est une restauration, parce que je me sens plus comme une victime, ce qu'elle nous a dit. Et c'est vrai que c'était la chose la plus importante. C'était clairement un stress. Ça revient, je pense, un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il y a le témoignage, et puis ensuite, de toute façon, on a interviewé près de 25 personnes, donc tous les gens ne sont pas dans le podcast. Chaque personne, on a passé au moins une heure avec eux, et au final, on a 6 épisodes d'à peu près 20 minutes. Donc de toute façon, il y a du tri à faire, des coupes, etc. Donc ça, c'est vrai qu'on se dit tout le temps, est-ce que les gens vont comprendre que c'est quand même un travail journalistique et qu'on doit en ressortir des choses, donc on ne peut pas tout garder. Mais pour l'instant, en tout cas de la part des personnes qui ont participé et qui témoignent, on est plutôt contentes vraiment des retours.
Il y avait vraiment cette idée de responsabilité, et c'est une vraie responsabilité qu'on avait envers les victimes, de ne pas déformer leurs paroles, leurs propos, ou en tout cas de bien traduire ce qu'elles avaient bien voulu nous confier. Ce qu'on s'est dit, c'est qu'on a eu la chance de faire cette enquête sous le format d'un podcast, et que du coup, on a eu une grande liberté, et que par exemple, on est hyper heureuse d'avoir pu dérouler le témoignage et de Déborah et de Hélène dans la longueur, là où on n'aurait peut-être pas forcément pu le faire avec un autre format. Et c'est d'autant plus une fierté d'avoir pu leur donner la parole.
Et ça s'est posé justement la question du format, parce que tu le mentionnais à l'instant, l'idée, le fait que ce soit de l'audio. Bon, alors moi je prêche un peu pour ma paroisse, mais je trouve que c'est forcément d'autant plus puissant. Mais est-ce que ça s'est posé la question du format, parce que ça aurait pu être aussi une enquête de presse écrite, ça aurait pu être un documentaire audiovisuel. Est-ce que ça a été une interrogation de se dire, alors comment est-ce qu'on raconte cette histoire, avec quel outil journalistique on la raconte?
La première option, pour être très honnête, c'était d'en faire un documentaire télé. Léa et moi, quand on s'est rencontrés, on était dans une boîte de production qui fait des documentaires télé qui s'appelle Slug News. Et en fait, on a été approchés des chaînes pour le faire, et finalement, ça ne s'est pas fait. Et du coup, ensuite est venue l'idée de faire un podcast, mais je pense pouvoir parler pour nous deux en disant qu'en fait, on est hyper content d'avoir pu faire sous le format audio, à la fois parce que ce que disait Lila, c'est que ça nous permettait vraiment d'organiser les choses comme on voulait, de laisser parler les gens, ces femmes comme on voulait. Et puis, je pense aussi que ce que tu disais, c'est que ça, quelque part, juste d'avoir juste la voix, c'est peut-être d'autant plus fort. Et après, je pense que très concrètement, déjà qu'il y a certaines femmes, on a eu du mal à les convaincre. Alors, je pense qu'on aurait eu en plus une caméra, je pense que ça aurait été encore plus compliqué.
Il y a énormément de liberté dans le format podcast, et je pense qu'il y a des sujets qu'on a pu aborder, par exemple les leviers de silenciation, on a pu faire tout un épisode dessus. On a pu aussi parler des acteurs du terrain, où je pense que peut-être dans un documentaire télé, ça aurait peut-être été plus une petite parenthèse. On a vraiment pu, en tout cas, faire un projet qui nous ressemble. Et c'est ça le dernier point, moi, que j'ai adoré dans le format du podcast, c'est que pour l'une comme pour l'autre, on a quand même mis beaucoup de nous, quoi. C'est très personnel, en fait. Voilà, au-delà du fait que ce soit nos voix, c'est nous qui l'avons écrit à deux. Moi, par exemple, il y a mes parents dans le podcast. On dit des anecdotes un peu personnelles sur nos vies. Enfin, c'est génial de pouvoir, dans un projet qui nous a autant porté, qui nous a autant tenu à cœur, sur lequel on a travaillé pendant un an et demi, de se dire qu'il y a aussi un peu de nous qui reste, quoi. Et c'est d'ailleurs pour ça que, à la fin, on a écrit un texte pour les victimes et pour les potentielles futures victimes, qui est extrêmement personnel et qui s'éloigne un peu de notre statut de journaliste, parce qu'on trouvait ça important aussi qu'on nous a entendus très journalistes pendant tout le podcast, mais qu'on est aussi deux femmes, moins de la trentaine, presque. Et voilà, qu'on voulait aussi s'adresser aux personnes qui nous écoutent pour dire, voilà, on vous croit, quoi.
Il y a la question de l'après, on l'a évoqué sur l'après, la réception par celles et ceux qui vous ont confié leurs paroles, mais il y a aussi toutes celles qui n'ont pas encore parlé. C'est un élément qui est important dans la démarche qui est la vôtre. Alors, Où est-ce qu'on en est? Forcément, le temps est un peu figé au jour où on se parle. Ça aura peut-être bougé d'ici à ce que cet épisode soit diffusé. Mais où est-ce qu'on en est justement des suites de Tuntothérapoint?
Dès le début, en fait, on s'est dit qu'on allait mettre en place un numéro sur lequel les personnes puissent nous contacter. Et on a le numéro qui revient à la fin de chaque épisode. On a dû recevoir, je pense, aujourd'hui une grosse vingtaine de gens qui nous ont écrit, même un peu plus, parce que c'est à la fois sur ce téléphone et après nous, sur nos réseaux, on a aussi reçu des témoignages. Alors, on a des témoignages de gens qui nous félicitent, qui nous font différentes remarques. Et après, on a aussi des gens, oui, qui nous écrivent en disant, voilà, moi, j'ai entendu parler de telle histoire ou moi, j'ai été victime de telle chose. Donc, en fait, on a d'autres témoignages qui nous sont arrivés. Et après, on a aussi peut-être des institutions qui se disent comment est-ce qu'on peut réfléchir maintenant, alors qu'ils ne sont pas les institutions officielles type consistoire, mais des organisations qui disent bon, mais qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Il faut qu'on profite de ce podcast pour rebondir. Enfin, on sait bien que ce podcast, ça ne va pas faire tout exploser. Enfin, même. Mais en tout cas, c'est vraiment, on le voit comme quelque part comme une brique de plus de ce qui avait déjà été fait, c'est-à-dire par les organisations comme Nous pour Elles, qui ont fait la fameuse lettre ouverte qui parlait notamment du rabbin numéro 1, ou de Kollel, cette collectif aussi de femmes féministes juives qui nous ont aussi beaucoup aidées. Donc on se dit que quelque part on accompagne cette libération de la parole, et en fait ce téléphone, en tout cas ces témoignages, on invite les gens à témoigner, parce qu'ensuite c'est, on ne sait pas encore quelle forme ça va prendre, quelle nature ça va prendre, mais en tout cas ces témoignages vont servir à quelque chose, c'est sûr.
Tuntothérapoint, l'enquête de Lila Berdugo et Salomé Parent-Rajdi, produite par Paradiso et Slug News. Elle est disponible dans le flux du podcast L'Affaire de Paradiso sur toutes vos applis préférées. Merci à Lila Berdugo et Salomé Parent-Rajdi pour leur réponse. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Charlotte Bex, réalisé par Quentin Bresson. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont eux aussi à retrouver sur toutes vos applis. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler, et à très vite pour un nouvel épisode.
Salut, c'est Sinamière du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.